Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria France, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose d'essentiel, à savoir du Rédempteur et de la Rédemption. C'est-à-dire, lorsque nous parlons de la croix, de la rédemption, du salut, de quoi parlons-nous exactement ? Est-ce que vous savez, chers frères et sœurs, ce que vous dites quand vous parlez du salut en Jésus ? Quand vous dites « je crois que je suis sauvé ». Qu'est-ce que nous disons lorsque nous disons cela ? Alors, demandons vraiment l'aide et le soutien de la Vierge Marie pour cette catéchèse, parce que, évidemment, c'est essentiel, c'est le cœur de notre foi. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous remercions le Seigneur. La foi chrétienne est un si grand don, car par la foi nous avons accès au mystère de Dieu, au mystère de Dieu qui se révèle. Et la plénitude de l'amour, de la tendresse, de la compassion, de la miséricorde de Dieu à notre égard s'est révélée dans le Christ, dans le mystère du Christ. Et la mission de Jésus, envoyée par le Père, elle est fixée dès le début des évangiles. On nous dit que, à Nazareth, Jésus dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. Aujourd'hui, cette parole de Dieu s'accomplit pour vous. » Autrement dit, Jésus dit « Voilà, c'est moi, je suis le Messie, je suis rempli de l'onction du Seigneur, je suis le Ouin, le Mashiach, et je suis venu libérer mon peuple. » On va voir tout à l'heure de quelle libération s'agit-il. Eh bien, Jésus s'appelle Emmanuel, vous savez, Dieu avec nous, et le nom même de Jésus dit « Dieu sauve ». Elle enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple. De quoi ? De ses péchés. Ah ! Donc, est-ce qu'il s'agit d'un libérateur politique ? Non. Un libérateur de quoi ? Ah, il vient sauver son peuple de ses péchés. Bon. Et Siméon ? Rappelez-vous, Siméon, dans le temple de Jérusalem, Jésus a 40 jours, Siméon le reçoit dans ses bras, il bénit Dieu et dit « Maintenant, souverain maître, tu peux, selon ta parole, laisser ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut. Que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. » C'est donc en sauveur du péché que Jésus vient, se manifeste. Jean-Baptiste au bord du Jourdain, dans l'Esprit Saint, lorsqu'il voit Jésus venir vers lui, il dit cette parole extraordinaire. « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Jésus passe, Jean le voit, et dans l'Esprit Saint, il prononce cette parole, c'est extraordinaire. Voici l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Où est l'agneau, mon fils, pour le sacrifice, Dieu, Père, rappelez-vous, Isaac, attaché, emmené par son Père sur le mont Moria. Dieu pourvoira, mon fils, Dieu pourvoira. il faut être patient. Il faut être patient. 1800 ans après, le voilà. Celui que Dieu pourvoit, c'est son fils. Il est l'agneau. L'agneau pascal. Eh oui. Car le Seigneur va vivre sa Pâque, nous le verrons. Qui enlève le péché du monde. Il y a tout Isaïe 53 derrière ça, avec ça. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que la parole de Jean dans l'Esprit Saint touche le mystère de Dieu et fait référence à tout ce que Dieu a déjà dit, annoncé. Car toute l'Écriture est inspirée. Alors, les Samaritains, c'est extraordinaire. Vous connaissez le passage du dialogue entre Jésus et la Samaritaine. Mais la Samaritaine qui va voir les Samaritains, et puis qui disent à un moment donné, il disait à la femme, ce n'est plus sur tes dires que nous croyons, nous l'avons nous-mêmes entendu et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. Le sauveur du monde. Un petit passage en Samarie, dans une contrée hérétique, et voilà que les hérétiques reconnaissent Jésus comme sauveur du monde. Extraordinaire. Et Jésus lui-même dira, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de remettre les péchés, lève-toi, dit-il alors au paralytique, prends ton lit et va-t'en chez toi. Jésus fera ce miracle, la guérison du paralytique, comme signe d'une guérison beaucoup plus profonde, qui est la guérison du péché, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de remettre les péchés. Extraordinaire. Alors, souvent dans les évangiles, on voit les gens qui s'étonnent, mais qui est-il celui-là? Il blasphème, Dieu seul peut pardonner les péchés. Ben oui, Dieu seul. Et lorsque Jésus dit « Je te pardonne tes péchés », il manifeste qu'il est Dieu. Il ne blasphème pas, il est Dieu. Et Dieu vient, à travers lui, nous pardonner de nos péchés et nous sauver. Alors Jésus commença de montrer à ses disciples qu'il lui fallait s'en aller à Jérusalem, y souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres, des scribes, être tué le troisième jour, ressuscité. Jésus annonce sa passion. C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. On comprend qu'il y a là quelque chose de tout à fait spécial dans la vie même de Jésus. Il n'est pas simplement quelqu'un qui se sacrifie pour quelques-uns. Il est là pour livrer sa vie en rançon, car il y a une rançon, une dette à rembourser. Et ce remboursement, parlons comme ça pour l'instant, cette rançon à payer, elle se passera dans un baptême de sang. Au chapitre 12 de Saint Luc, Jésus dit « Je dois être baptisé d'un baptême, et quelle n'est pas mon angoisse jusqu'à ce qu'il soit à consommer ?» Et bien sûr, prenant une coupe, il rendit grâce et la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui va être répandu pour une multitude en rémission des péchés. » En rémission des péchés. Ah, le sacrifice de Jésus, c'est en rémission des péchés. Jésus dira en Jean 10, « Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même, c'est sa vie. Je donne ma vie, je la dépose. » C'est un terme sacrificiel, je dépose ma vie. J'ai pouvoir de la donner et j'ai pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Autrement dit, Jésus se reçoit du Père et il dépose sa vie entre les mains du Père. Il y a donc, dans toute la vie de ce Jésus de Nazareth, la révélation extraordinaire que Dieu, ça y est, il accomplit ses promesses. Il avait promis qu'il allait venir nous sauver. De quoi ? Du péché. D'un empire romain ? Non, non, non. De quelques bourreaux ? Non, non. De quelques gouvernances bizarroïdes ? Non, non, non. Du péché. Ah ! Du péché. Beaucoup de passages dans l'Écriture, évidemment, vont témoigner de cette réalité extraordinaire que Jésus est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus lui-même. Il s'est livré en rançon pour tous, dira saint Paul. Saint Jean dira que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Autrement dit, en dehors de Jésus, il n'y a pas de vie éternelle. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie éternelle. Saint Jean dira, qui a le Fils a la vie. Qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. La vie avec un grand V, c'est-à-dire la vie éternelle. La vie de Dieu. La vie de l'éternel. Elle est sûre, cette parole est digne d'une entière créance. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis moi le premier, dit saint Paul. Quand est-ce que Jésus nous sauve du péché ? Quand est-ce que ça se passe, le salut ? Est-ce que c'est le vendredi saint à 3 heures ? Oui. Mais est-ce que ça a commencé un peu avant ? Oui. Je vais vous lire un petit passage de Jésus à Luisa Picaretta que j'aime beaucoup personnellement, qui va beaucoup nous éclairer, parce que voilà, on entre progressivement dans ce grand mystère de la rédemption et du Rédempteur. Le 14 août 1912, Luisa dit, je me trouvant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus me dit, « Ma fille, l'âme qui veut s'oublier elle-même doit faire ses actions comme si c'était moi-même qui les faisais. Si elle prie, elle doit dire, c'est Jésus qui prie, et moi je prie avec lui. Si elle s'apprête à travailler, à marcher, à manger, à dormir, à se lever, à s'amuser, c'est Jésus qui va travailler, marcher, manger, dormir, se lever, s'amuser, et ainsi de suite. C'est seulement de cette manière que l'âme peut revenir à s'oublier elle-même, faire ses actions non seulement parce que je suis d'accord, mais parce que c'est moi qui l'ai fait. Un jour, pendant que je travaillais, je me suis dit, comment est-ce possible que quand je travaille, non seulement Jésus travaille avec moi, mais que c'est lui-même qui fait le travail ? Il me dit, oui, c'est moi qui le fais. Mes doigts sont dans les tiens, et ils travaillent. Ma fille, quand j'étais sur la terre, mes mains ne se sont-elles pas abaissées à travailler le bois, à enfoncer des clous, aidant ainsi mon père adoptif Joseph ? Ainsi, avec mes mains et mes doigts, je créais des âmes et divinisais les actions humaines en leur donnant un mérite divin. Par le mouvement de mes doigts, j'appelais le mouvement de tes doigts et celui des autres doigts humains. Et en voyant que ce mouvement était fait pour moi et que c'était moi-même qui le faisais, je prolongeais ma vie de Nazareth en chaque créature et je me sentais comme remercié par elle pour les sacrifices et les humiliations de ma vie cachée. Fille, ma vie cachée de Nazareth n'est pas considérée par les hommes. Cependant, hormis ma passion, je ne pouvais leur faire un plus grand don. En m'abaissant à tous ces petits gestes que les hommes doivent faire quotidiennement, comme manger, dormir, boire, travailler, allumer le feu, balayer, je mettais dans leurs mains des petites pièces de monnaie divine d'une valeur inestimable. Si ma passion les a rachetés, ma vie cachée a attaché à leurs actes, même les plus anodins, des mérites divins d'une valeur infinie. Vois-tu, quand tu travailles, et tu travailles parce que je travaille, mes doigts coulent dans les tiens, et pendant que je travaille avec toi, à ce moment même, mes mains créatrices répandent par beaucoup de lumière dans le monde. Combien d'âmes j'interpelle, combien d'autres je sanctifie, corrige, châtie, etc. Et tu es avec moi, créant, interpellant, corrigeant, et ainsi de suite. Tout comme tu n'es pas seul en cela, moi non plus, je ne suis pas seul dans mon travail. Puis-je te faire un plus grand honneur? Qui pourrait dire ce que j'ai compris? Dit Louisa, tout le bien qu'on peut se faire à soi-même et qu'on peut faire aux autres quand on fait les choses comme si c'était Jésus qui les faisait avec nous. Mon esprit se perd et par conséquent, je m'arrête ici. Il y a un lien, évidemment, intrinsèque entre ce que Jésus a vécu depuis son incarnation dans le sein de la Vierge Marie jusqu'à son dernier souffle. C'est toute la vie de Jésus, Rédempteur, Sauveur, qui est à considérer et qui nous sauve. Bien sûr, nous allons rentrer dans le moment de l'heure de Jésus. Mais l'heure de Jésus n'est pas à déconnecter de toutes ces minutes qu'il a passées depuis son incarnation. Car l'incarnation est le commencement du salut. Pourquoi ? Parce que c'est Jésus, vrai Dieu, vrai homme, qui dans son humanité vit dans la divine volonté. Et tout ce que Jésus dans son humanité va vivre depuis son incarnation et à chaque instant va venir, j'anticipe un petit peu, mais va venir surcompenser, va venir réparer, va venir satisfaire et inaugurer une nouvelle vie, la vie dans la divine volonté, en nous, pour nous. Donc je ne voudrais pas, si vous voulez, qu'on arrive tout de suite le jeudi saint, mais qu'on prenne en compte chaque instant de la vie de Jésus, car c'est à chaque instant que Jésus nous sauve. Avec un point évidemment tout à fait particulier, culminant, qui est l'heure de Jésus. Justement, cette heure, Jésus en parle dans l'Évangile. Dans plusieurs endroits dans les évangiles, il annonce son heure. À Cana, au début de son ministère public, il dit « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. » Ah ! Cette heure, elle dépend du Père. Et il y a un moment où elle arrive. Et il y a un moment où c'est trop tôt. Il cherchait encore à le saisir, mais personne ne porta la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Un autre passage, il prononça ces paroles au trésor alors qu'il enseignait dans le temple. Personne ne se saisit de lui parce que son heure n'était pas encore venue. Dans le chapitre 12 de Saint Jean, « Voici venue l'heure où doit être glorifié le Fils de l'homme. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Maintenant, mon âme est troublée, et que dire, Père, sauve-moi de cette heure ? Mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. C'est pour cela. » Et bien sûr, dans la prière sacerdotale de Jésus au chapitre Jean, au chapitre 17, pardon, de l'Évangile selon saint Jean. Ainsi parla Jésus, élevant les yeux au ciel, et dit: Père, l'heure est venue. L'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, et que selon le pouvoir que tu lui as donné sur toute chair, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. C'est l'heure de son passage au Père. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde vers le Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Cette heure de Jésus que nous devons chérir, chers frères et sœurs, cette heure de Jésus, elle l'habite continuellement. Dans plusieurs passages dans les évangiles, Jésus parle de ce moment, de sa passion, il l'annonce plusieurs fois. Il en connaît tous les contours. Allez demander à ce propriétaire telle salle à tel endroit, c'est là que je vais manger ma Pâque avec mes disciples. Jésus sait tout et il se livre, il entre dans son heure, qui, comme résume sa vie temporelle, elle condense, elle récapitule en elle toute sa vie humaine. C'est comme, elle récapitule toute la vie humaine, non seulement la sienne, mais la nôtre. Car en effet, l'heure de Jésus, qui commence le jeudi saint, au soir, avec le repas pascal, avec la Sainte Cène, l'institution de l'Eucharistie et l'institution du sacerdoce ministériel, confié aux apôtres et à ses successeurs. Quand l'heure de Jésus vient pour glorifier le Père et glorifier le Fils, voilà que c'est toute l'histoire du monde qui est récapitulée. Depuis le premier acte d'Adam et Ève jusqu'au dernier créé, tous les êtres humains, tous nos actes sont récapitulés dans l'heure de Jésus, dans la vie de Jésus, mais particulièrement dans cette heure dans laquelle il entre. C'est une heure solennelle et c'est un moment unique, bien situé dans l'histoire, sous Ponce Pilate. C'est une heure qui précontient la résurrection et l'ascension. Oui, car vous avez compris, maintenant vous commencez à comprendre que la passion de Jésus, c'est la révélation de la victoire de l'amour sur le péché, étant la victoire, elle ne s'arrête pas à la mort, mais elle précontient la résurrection et l'ascension. Et elle domine tous les temps, tous les lieux, toute l'histoire humaine, tout l'univers. Il y a une croix qui va se dresser sur le monde, au Golgotha, et cette croix élevée, lorsque je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes, tous les hommes, depuis Adam et Ève jusqu'au dernier créé. Et cette croix va être au centre de l'histoire. Cette croix qui va se dresser va être au centre de l'histoire et la source qu'on ne pourra pas arrêter. Une source, la source du salut, à laquelle on pourra puiser ivre de joie aux sources du salut. Vous savez maintenant que pour nous, chrétiens, le mystère de la croix, nous ne regardons pas le mystère de la croix comme une boucherie. Oui. Même si de fait, on s'est acharné avec une violence immense et inouïe sur Jésus. Mais maintenant, nous savons regarder de l'intérieur avec un regard de foi, sur ce qui se passe. C'est Jésus victorieux. Alors entrons justement dans ce mystère de la rédemption. Qu'est-ce qui est en train de se passer lorsque l'heure de Jésus vient? Eh bien, vous commencez à comprendre progressivement que ce Jésus qui se livre, qui remet sa vie entre les mains du Père, vient satisfaire au Père. Jésus dit à Luisa Picaretta, dans le tome 6, du 6 novembre 1905, « Ma fille, dans mes souffrances, j'étais préoccupé d'abord de plaire à mon cher Père, en tout et pour tous, et ensuite de racheter les âmes. La chose qui était la plus agréable à mon cœur était de voir la satisfaction de mon Père et de me voir souffrir par amour pour lui. Tout lui était destiné. Pas un seul souffle ou soupir n'était perdu. Cette satisfaction de mon Père suffisait à me rendre satisfait pour tout ce dont je souffrais, bien que les souffrances de ma passion étaient pour le rachat des créatures. La satisfaction de mon Père était si grande qu'il déversait par torrents les trésors de sa divinité dans mon humanité. Accompagne ma passion de cette façon. Tu me donneras ainsi plus de plaisir. » Il nous faut comprendre que dans la passion de Jésus, comme dans toute la vie humaine de Jésus, nous sommes insérés dans le cœur de Jésus par le mystère de l'incarnation rédemptrice. Le mystère du Christ, vrai Dieu, vrai homme, nous sommes chacun dans le cœur du Christ, humain. Donc quand le Christ entre dans sa passion, il se livre entre les mains du Père par amour pour lui. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il satisfasse? C'est un terme sacrificiel, satisfaire, la satisfaction. C'est quoi? Un sacrifice expiatoire. Parce que les théologiens de l'Église, bien sûr, se sont beaucoup penchés sur cette question. Et notamment saint Anselme de Canterbury avec le cours Deus Homo, saint Thomas d'Aquin et plein d'autres. Ils se sont dit, mais comment rembourser la dette à Dieu que nous avons encourue parce que nous avons privé Dieu du bonheur de vivre avec nous dans cette alliance qu'il avait établie avec Adam et Ève, et qui ne devait pas, dans le plan, dans la volonté de Dieu, être brimé, brisé. Comment réparer? Les théologiens ont compris qu'il y avait quelque chose d'infini dans le péché. En raison de l'offense, elle est infinie. En raison de la personne qui est offensée, qui est Dieu, et qui... Alors, avec mon petit péché, moi, créature limitée, est-ce qu'il y a quelque chose... qu'on ne peut pas rembourser, qu'on ne peut pas réparer. Ben oui. Alors, je n'entre pas dans ce débat théologique passionnant, mais pour nous faire comprendre un grand mystère, c'est que le péché n'est pas remboursable par un être humain. Alors quoi? Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Alors, il faut que celui qui vienne rembourser la dette soit vrai Dieu, vrai homme. Vous prenez tous les saints de l'Ancien Testament, depuis Abel le Juste jusqu'à Jean-Baptiste, si vous voulez, qui est sur l'Ancien et le Nouveau. Ben, vous rajoutez toutes les saintetés, parce qu'il y en a. Tous les actes humains de sainteté, toutes ces vertus qui ont été vécues ici-bas. Vous rajoutez tout ça, vous mettez ça dans un sac, vous allez à la banque, chez Dieu, vous dites « voilà, je te rembourse ». Et il va dire « ben non, il n'y a pas assez ». Il n'y a pas assez parce que... Remarquons bien que dans les évangiles, c'est assez frappant que Jésus parle pas mal d'économie. Il y a beaucoup de paraboles qui sont liées à l'économie et Jésus parle de dette souvent. et notamment une parabole où, rappelez-vous, celui qui s'occupe des biens de son maître, et on doit beaucoup d'argent à son maître, et alors ce serviteur va falsifier un peu les comptes, il va s'arranger, il va dire, bon, là, tu dois, je ne sais plus combien, vous connaissez la parabole comme moi, et ben marque beaucoup moins. Mais comme ça, le maître est un peu remboursé quand même. Mais le maître est content parce qu'il touche un petit peu de remboursement de sa dette. Mais ce serviteur, il va voir d'autres personnes et il se montre très très dur. Et là, le maître, il n'est pas du tout content. Et si nous regardons bien les sommes dont il est question, eh bien ce sont en fait des sommes qu'on ne peut pas rembourser. Un seul peut rembourser, non seulement rembourser, mais surcompenser. C'est-à-dire que uniquement celui qui est vrai Dieu, vrai homme, le médiateur, le pontife, celui qui fait le pont entre la divinité et l'humanité, alliance qui était cassée, dette qui était infinie, c'est-à-dire impossible de rembourser. Uniquement Jésus, vrai Dieu, vrai homme. Car dans le cœur du Christ, qui est Jésus ? Il est Jésus, sa personne, elle est divine. C'est la deuxième personne de la Sainte Trinité. Il y a deux natures en Jésus, une nature divine et une nature humaine. Et alors tout ce qu'il vit dans son humanité, qu'il a assumé, la nôtre. Tout ce que Jésus va vivre à chaque instant va surcompenser. Alors à l'infinité de la dette répond une surinfinité de la réponse, du remboursement. C'est ça, si vous voulez, je vous le fais très court en résumé, des réflexions théologiques très importantes qui ont, j'allais dire, parcouru plusieurs centaines d'années. Parce qu'il s'agit bel et bien de comprendre, est-ce que nous sommes vraiment et comment nous sommes réconciliés avec Dieu ? Ça veut dire quoi être rédempté, être sauvé ? Est-ce que c'est juste une délivrance ? Être délivré, c'est dire « Ok, j'annule ta dette. » Donc, c'est bon, tu ne me dois plus rien, vis ta vie, et donc tu me devais 100 000, allez, je raye. Être délivré, c'est de dire « Allez, maintenant, vous êtes déconfiné, vous enlevez vos masques et vous vivez normalement. » Vous voyez, c'est à un certain niveau si vous voulez être délivré. Être délivré, c'est dire « Ok, tu as un cancer, je te délivre de ton cancer. » La guérison physique est une délivrance. Ah ben oui, parce qu'on porte le poids de sa maladie, on porte le poids de plein de trucs, et d'un coup, il y a un poids qui saute. Et alors on dit « On est délivré, merci Seigneur. » Oui, Jésus délivre. Mais Jésus va beaucoup plus loin que la délivrance. Le salut, la rédemption, va beaucoup plus loin qu'une délivrance. La rédemption, le salut, c'est de dire non seulement je te mets ta dette à zéro, mais je satisfais pour toi. C'est-à-dire que maintenant, et c'est ça qui est grand dans la rédemption, frères et sœurs, il faut bien comprendre, j'espère que vous comprenez, que la rédemption, c'est non seulement nous délivrer, c'est mettre la dette à zéro, mais c'est en faire plus. Jésus a fait plus que ce qu'il fallait, en raison de sa dignité, de la dignité de sa personne. C'est pourquoi, je reprends le terme au cardinal Journet, c'est une surcompensation. C'est une surcompensation qui va non seulement surcompenser, mais susciter en nous une réponse qui va installer en nous comme une greffe. Désormais, nous pouvons être greffés sur ce Jésus rédempteur. Pourquoi ? Eh bien, pour collaborer, pour co-rédempter, pour, eh oui, distribuer abondamment la miséricorde. C'est ce qu'il y a de grand dans la rédemption, et c'est ça qu'il faut comprendre, ce n'est pas simplement l'aspect de la guérison, de la délivrance. Mais le salut, c'est « je te sauve du péché qui est un poids, bien sûr, mais je te sauve toi, et je te greffe, toi, Pêcheur sur ma vie, il nous a transféré les ténèbres à son admirable lumière. Désormais, il initie, il inaugure quelque chose de nouveau qu'est la vie divine en nous. C'est cela la rédemption, frères et sœurs. Si vous voulez quelque chose pour terminer, je vais vous lire un petit passage de Louisa et puis je vais vous dire un petit quelque chose sur la Vierge Marie, même si nous aurons l'occasion d'y revenir. Ma fille, j'ai voulu être élevée et crucifiée sur la croix pour que les âmes qui me veulent puissent me trouver. Si quelqu'un me veut comme maître, parce qu'il sent le besoin d'être enseigné, je m'abaisse pour lui enseigner autant les petites choses que les choses les plus élevées pour le rendre savant. Si quelqu'un gémit dans l'abandon ou l'oubli et cherche un père, qu'il vienne au pied de ma croix, moi je me ferai son père en lui donnant mes plaies comme demeure, mon sang comme breuvage, ma chair comme nourriture et mon royaume comme héritage. Si quelqu'un est infirme, il me trouve comme médecin, lui donnant non seulement la guérison mais aussi des remèdes sûrs pour ne pas redevenir infirme. Si quelqu'un est opprimé par les calomnies et les mépris, il me trouve comme son défenseur qui va jusqu'à transformer en honneur divin ses calomnies et ses mépris. Et ainsi de suite. En somme, quiconque me veut comme juge, comme ami, comme époux, comme avocat, comme prêtre, etc., me trouve comme tel. Voilà pourquoi j'ai voulu que mes mains et mes pieds soient cloués, pour ne m'opposer en rien à ce qu'on veut, pour qu'on puisse faire de moi ce qu'on veut. Cependant, malheur à celui qui, voyant que je ne peux même pas bouger un doigt, ose m'offenser. Louisa lui dit, « Seigneur, quels sont ceux qui t'offensent le plus ?» Il répondit, « Ceux qui me donnent le plus de souffrance, ce sont les religieux. Ceux-ci, vivant dans mon humanité, me tourmentent et déchirent ma chair de l'intérieur, tandis que ceux qui vivent en dehors de mon humanité me déchire de loin. » Alors nous comprenons que si le Seigneur a vécu son heure, la rédemption, pour nous sauver, c'est-à-dire que dans la personne de Jésus, dans son humanité sainte, qu'il est totalement offert au Père, il y a toutes les prières, tous les sacrifices, toutes les demandes, tous les cris, tous les abandons, toute notre humanité ramassée dans la sienne est offerte par lui, Jésus, qui est le grand prêtre, la victime et l'autel. C'est la médiation ascendante, c'est-à-dire que nous partons de la terre au ciel et Jésus est celui qui s'offre au Père, entre les mains du Père, pour satisfaire au Père, pour surcompenser, pour surréparer, pour surrembourser. Voilà, vous avez compris. Mais la croix est le lieu aussi où non seulement toute notre vie humaine est déposée dans le cœur de Dieu, du Père, pour supplier le salut, mais la croix est le lieu où le ciel se déverse sur la terre. Le cœur de Jésus est ouvert. Et alors, c'est tout ce que vit Jésus qui est agréé par le Père, et le Père bénit, le Père répond, et le Père sauve par son Fils chacun de nous. Il nous réintègre et il nous... C'est un lieu de surabondance, la croix. C'est une source. C'est un lieu de passage très ténu, très étroit, qui nous donne accès au ciel. La croix, c'est non seulement quelque chose qu'on érige de la terre vers le ciel, mais c'est le lieu où le ciel descend, cette échelle de Jacob, que Jacob avait vue, rappelez-vous. Alors voilà, j'espère, frères et sœurs, avoir été un petit peu clair. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui en ce qui concerne le Rédempteur, heureuse faute qui nous a valu un tel Rédempteur. Et le mystère de la rédemption. Voilà, merci pour votre attention. Que le Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.